Il y a aussi le poids familial. Bon, je vais aller très vite sur le poids familial et transgénérationnel. Le poids familial, vous savez bien que notre personnalité, elle se construit dans le milieu familial dans lequel on vit, dans la petite enfance et plus tard, ou ce qui en tient lieu, et dans notre adolescence, et ça va beaucoup se refléter, dans notre vie amoureuse. Alors, les parents, déjà avant la naissance de l'enfant, quand il est pendant la grossesse, ils vont envoyer plein de projections à cet enfant, des projections qui souvent vont contenir des désirs qui étaient les leurs, soit en tant qu'enfant, soit en tant qu'adulte, des désirs conscients et inconscients. Un exemple, il y a beaucoup de papas qui ont plutôt envie d'avoir des garçons. Bon, et ben, ils vont faire passer l'idée soit un garçon, ça marche pas. Mais ils n'accueillent pas toujours très bien les petites filles dans ce cas-là. Je pense aussi aux difficultés que certains enfants ont à s'approprier leur propre corps, parce que beaucoup de mamans, plus que les papas, mais beaucoup de mamans considèrent que le corps de leur tout-petit, et puis de leur enfant, pendant pas mal de temps, leur appartient. Donc, les enfants ont un mal fou, finalement, à avoir une identité corporelle séparée. Parce qu'il y a des mamans qui sont un peu trop possessives. Et puis, rappelons que l'enfant porte en soi, l'enfant que chacun porte en soi, est à l'œuvre, disait Didier Dumas, dans le style et les modalités par lesquelles on tombe amoureux. Donc, le petit enfant qui est en chacun de nous, il est très présent dans notre vie affective. Alors, il y a le modèle du couple parental. Je ne vais pas avoir le temps de décrire tous les modèles de couple, mais vous les connaissez bien. Hein. Il peut y avoir papa très autoritaire, maman très soumise, ou mère super omnipotente et papa qui baisse les bras. Il peut y avoir les couples d'amants seulement, pas ses parents, les couples d'ennemis aussi. Bon, il y a plein de modèles de couples qui donnent pas forcément à leurs filles très très envie de les reproduire. Et les filles ayant très très peur de vivre la même chose, ben elles évitent. Elles sont dans l'évitement du couple. Ça donne pas très envie de faire la même chose. Il y a aussi dans la famille une raison très importante. Alors, ça ne va pas être très agréable à entendre, je pense, ce que je vais dire, comme je le dis dans le bouquin. Alors, le bouquin, il n'y est pas, là. Il n'est pas sur les tables parce qu'il est épuisé. Voilà. Vous l'aurez vu quand même, parce qu'il n'est pas sur la table. Alors, c'est plus facile à dire ou à lire ou à entendre qu'à vivre. C'est les relations mère-fille, ou plutôt le couple mère-fille. Presque tous les psys parlent maintenant du couple mère-fille, tellement influençant, tellement prégnant dans les difficultés que vivent les filles dans leur vie amoureuse. Parce que la mère, alors je sais qu'il y a des mères ici, je suis aussi, soyons humbles, tout simplement, et puis il ne s'agira peut-être pas des mères qui sont là, car la mère, dans certains cas, je souligne trois fois, peut installer de façon très masquée, très indirecte, une relation remplie de violence psychologique. Par exemple, il y a des mères qui laissent passer le message, même si ce n'est pas dit comme ça, mais marie-toi, mais ne te marie pas. Hein? Tous les hommes sont nuls, mais il faut bien que tu te maries. Ça veut dire la même chose. Ou reste-moi fidèle, tu ne vas pas me lâcher, regarde comme je suis malheureuse, il y a quand même beaucoup de mères dépressives. Donc la peur de trahir leur mère entrave inconsciemment beaucoup de femmes qui pour rien au monde ne voudraient se montrer déloyales ou ingrates vis-à-vis de leur mère. Et une façon d'être ingrate vis-à-vis de sa mère, ça peut être simplement d'être heureuse dans sa vie affective. Hein? Car comment faire souffrir la femme qui vous a tant aimée? Je me souviens d'une jeune femme dont la mère lui disait « Aucun homme ne pourra t'aimer comme je t'aime, moi. » Bon. Il y a aussi les messages négatifs que les mères envoient à leurs filles. Je me souviens d'une femme qui disait à sa fille « Bon, écoute, t'es franchement pas jolie, mais comme t'es brillante, tu fais des études brillantes, donc tu vas te rattraper de ce côté-là. » Il y a les mères non maternantes, c'est-à-dire des mères qui vont être très occupées ailleurs, leur profession, leurs activités, leur amant, leur mari, plein de choses, mais pas leur fille, pas leur enfant. Donc, ces mères ne vont pas être protectrices, elles ne vont pas être un soutien, elles ne vont pas éduquer leur fille, elles ne vont rien leur apprendre, en fait. Il y a les mères ennemies des hommes. Toutes ces femmes misandres qui n'ont pas permis à leurs filles d'avoir confiance dans les hommes. Elles deviendront guerrières, amazones, séductrices. Elles voudront souvent, comme leur mère et leur grand-mère, et des fois comme ça des générations de femmes fortes dans les familles, mener les hommes. Comme le dit Aldo Nauri, c'est cette généalogie a comme particularité d'avoir voué une sorte de culte au féminin et inculqué donc aux filles un grand mépris de l'homme. Et nous savons que ce sont les femmes qui font les pères, c'est-à-dire qu'il y a un âge bien particulier, Boris Cyrulnik le décrit très bien, où la mère doit présenter son enfant au père et donner la place au père. C'est là que se fait le père. Et il y a beaucoup de femmes qui s'intercalent entre l'enfant et le père, comme si elles empêchaient le père et l'enfant de se rejoindre.